L'expérience commence. C'est un duo d'artistes, Géraldine Py et Roberto Verde, qui eux-mêmes aiment d'autres artistes et se nourrissent d'échanges réels ou imaginaires avec eux. Ils ont pensé à un nouveau mode de rencontre. Au lieu de demander un rendez-vous à un artiste qu'ils admirent, ils partiraient en road trip avec leur vélo et se présenteraient à eux avec sueur et en cycliste. C'est le défi qu'ils se sont lancé. Entre-temps, il y a eu un accident, mais les voyages réels ou rêvés ont bien eu lieu. La réalisation est signée Gilles Mardi-Rossian, une famille de pensées.
C'est un voyage initiatique, un pèlerinage à la recherche des artistes qui appartiennent à ce que l'on nomme notre famille de pensée. C'est un hommage livré en vélo. Le premier voyage s'est déroulé en 2015, parcourant 2400 km à travers la France, la Suisse et l'Italie. Nous avons rencontré quatre artistes de cette famille, Michel Blasi et Roman Signer, plasticien, Alessandro Barrico, écrivain, et Ettore Scola, réalisateur. Ce deuxième voyage est une traversée de la Belgique, la France et l'Angleterre pour rencontrer Eugène Savitskaya, écrivain, Jérôme Bell, chorégraphe, et Jérémy Deller, plasticien. Le départ est prévu pour septembre, mais comme un bâton qui se coince dans une roue, le 13 août, je tombe dans une fosse et en ressors avec une double fracture du pied. Nous décidons de maintenir le départ. Je reste à Bruxelles pour me soigner.
Et on se rejoindra pour les rencontres fixées avec les artistes. Une correspondance s'installe avec d'une part les récits d'un voyage en vélo et d'autre part les récits d'un voyage imaginaire.
Ça, c'est votre os ici qui est passé, ok. Et peut-être que ici, il y a déjà un début, et ici aussi. Mais vous n'avez pas encore bouché tout le trou. Mais il y a déjà des ponts. Et une fois qu'il y a les ponts, en général, on commence à enlever le plâtre parce qu'on s'est rendu compte que avec l'appui, ça aidait à produire de l'os.
Je ne sais pas ce que ça donne avec les vents, mais c'était pour te donner un petit update. Et je suis en route pour Namur. Ce matin, ça caillait comme pas possible. Et heureusement, j'ai encore un peu de braise dans le feu. Du coup, j'ai pu sécher mes chaussettes mouillées, me réchauffer un chouïa et me mettre en route pas trop tard. Partir à 11h. Et je viens de croiser un cycliste qui ne peut pas saluer. Et je pense que c'est parce que je ressemble plus à un VTTiste qu'un cycliste sur route. Et à mon avis, entre les deux, ça ne se salue pas. Quoi.
Il y a ce petit texte de Savitskaya qui s'appelle Exquise Louise, dans lequel il évoque non pas les saluts entre cyclistes, mais le salut entre les souris. Je commence la lecture. Une souris pressée trottinait à travers un monde de galeries et d'encoignures poussiéreuses. Elle était d'une propreté irréprochable et d'une obstination à toute épreuve. Elle croisait ses congénères, sans leur adresser le moindre salut. Il était impossible, malgré son air têtu et la difformité de son épaule droite ceinte d'un drap violet, de la croire malade ou folle. Tant était sûr son pas, aiguë sa vue, vigilante ses oreilles et clairvoyant son museau. C'était une souris dans la force de l'âge, gracile, gracieuse, ayant déjà eu 7 portées de 7 souriceaux et souricettes.
1, 2, 3. 4, c'est parce que c'est raide ça, hein. 5, allez, prenez de la vie, hein. 6, 7, voilà, 8, 9 et 10. Et on relâche bien, magnifique. Allez, comme ça. Encore, voilà. Et puis relever. Et puis plier. Et relever. Et plier. Relever, et plier, relever, et plier, relever, et plier, très bien, et plier, hop, et plier,
allez,
hop, et plier, hop, et plier, hop, et plier, hop, et plier.
Cette nuit, je me suis fait aboyer par une biche. J'étais dans les macs et chaque feuille faisait du bruit. À un moment donné, je crois que j'ai une souris qui essaye de grimper ou chercherait de la nourriture. Et en fait, c'est juste un scarabée. Et un peu plus tard, toujours pas endormi, j'entends encore un nouveau bruit. Cette fois, il est plus fort et je suis persuadé que c'est un renard ou un lapin. Et en fait, c'était juste une souris de champ. Qui courait assez vite pour ne pas se faire repérer. Et j'ai réussi enfin à m'endormir, mais je me fais réveiller par le bruit des sabots qui courent en ma direction. Du coup, j'ose pas sortir, en pensant que c'était un sanglier qu'il allait me charger. Et du coup, je sors la lampe frontale dans la direction du son. Et là, j'entends « baou, baou ». On m'avait dit que les biches, elles aboyaient, mais jamais j'aurais pu imaginer que ça ressemble autant à un chien. Et puis la biche, elle s'éloigne. Et je prie pour que le cerf ne vienne pas à sa rescousse. Je me voyais très mal lui expliquer la nature de ce malentendu.
C'est justement la saison du brame du cerf. Et du coup, cette nuit, j'ai rêvé que j'allais dans les bois, dans les Ardennes, et que j'allais l'écouter.
Alors, la carte de 64 gigas, on va la mettre ici. Et on va repartir en direction des cerfs qui ont l'air d'être un peu plus par là-bas. Ils sont très sensibles au bruit et puis à l'odeur. Ils ont par contre vraisemblablement un sens de la vue très très peu développé. Donc là, on peut observer, il y a tout un troupeau. Et alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs mâles. S'il est tout seul, j'en vois un. Il y a une multitude de femelles. S'avancer encore un petit peu. Voilà. Là, malgré que je fasse tout doucement, toutes les oreilles sont dressées vers moi, toutes les têtes. J'ai été repérée.
Eugène Savitskaya, j'hésite à le rencontrer, dans le monde réel, je veux dire. Car le rencontrer à travers ses romans et poésies, ses choses faites, j'ai passé ces 3 dernières semaines en sa compagnie. Je ne suis pas certaine de vouloir y mettre un visage, comme on dit. Ce visage risquerait de devenir le visage matriciel de tous ces personnages, et même sa voix risquerait de devenir la voix matricielle de ces personnages. Au mieux, à force de lire des histoires couvertes de végétal, des récits qu'on va chercher dans la terre avec ses doigts et qui rendent les museaux humides, j'ai fini par poser un visage qui pourrait être un genre de portrait d'Archimboldo, qui se transformerait comme si les livres étaient des saisons. En fonction du texte, ce serait l'hiver quand il est gris, minéral, quand il gratte la gorge comme le nom des villes dans les Ardennes, ou ça pourrait être le printemps, quand il est vif, net, délicat, comme les tendres pousses des fougères. La pluie s'aggrave. Naturellement, on avance au rendez-vous. Je me préfigure la conversation en regardant au loin. La porte s'ouvre. Le contre-jour cache le visage d'Eugène. Cette lumière parfaite résout alors mon dilemme, le rencontrer mais sans y mettre un visage. Sur le seuil de la porte, Eugène se tient en équilibre entre le personnage et l'écrivain.
J'arrive en village et un bruit tondeuse m'attire vers une jolie maison avec un grand jardin. Je fais signe au jardinier qui éteint la machine et me rejoint dans la rue par un petit portail en bois. Je lui demande s'il était possible de dormir dans son jardin. Il dit que c'était le jardin de son voisin et qu'on ne pouvait pas marcher sur la pelouse, mais qu'il connaissait un bois près du cimetière militaire. Et il me dessine un plan et remplit mes gourdes. Arrivé au bois, je suis ses indications qui m'amènent directement à une cabane des chasseurs avec vue sur champ de betteraves au coucher de soleil. Visible depuis le chemin, j'espérais juste que personne ne vienne réclamer son territoire. À peine installé, j'entends des pneus rouler dans les graviers. C'était les jardiniers, avec un carton dans les mains. Je t'ai ramené de la bière et une boîte des rations de l'époque où j'étais à l'armée. Il décapsule les deux bières et continue. Je dois pas tarder à rentrer pour dîner avec ma femme, mais je sais ce que ça veut dire dormir dehors en pleine nature. Quand on était à l'armée des terres, on faisait de ces longues marches. Puis je suis devenu chauffeur des fourgons blindés. J'ai perdu un collègue. Il s'est fait tirer dessus. J'étais mis aussi un réchaud à combustible solide et un briquet. J'ai rajouté du café soluble dans la boîte pour demain matin. Il récupère les bouteilles des bières vides et me souhaite bonne route. Je ne lui ai pas dit que j'étais végétarien. Et j'ai bien évidemment tout mangé en 2 jours. Tartiflette, salade italienne, rillettes traditionnelles, potage, dessert. Biscuits de campagne, salé et sucré, salade de thon, ravioli, nougat, pâte de fruits, barrette énergétique, barrette au muesli, boisson isotonique, chocolat à croquer, confiture.
Toujours exquise Louise de Savitskaya. Aujourd'hui, la forêt a rencontré Louise, au détour d'un chemin brusquement plus frais et odorant. Ça sent la mousse et le cresson. Et là, là où résonne la forge du pic, elle marche sur la piste d'un trésor. Que le chemin est long qui y mène. À droite, elle voit l'or. À gauche, l'eau. En haut, le ciel à travers l'enchevêtrement des branches. Plus loin, un arbre couché. Au bout d'un sentier, elle trouve la pyrite et l'emporte.
suite à la rencontre avec Savitskaya. Donc tout est en désordre, évidemment. Elle nous a parlé d'un livre qui s'appelle « La pêche aux requins du Groenland ». Il a oublié le nom de l'auteur et le journal du voleur. Ensuite, on a parlé de Dada et les chemins de glace de Herzog. Il est issu d'une fratrie, donc ils étaient quatre. Son père était polonais, donc venu travailler dans les mines, hein, travailler au fond, comme il dit. Voilà, il en est tombé malade, et puis sa mère était ukrainienne. Puis on leur disait une tonne de charbon par ouvrier italien. C'est-à-dire qu'en fait, une tonne de charbon était envoyée en Italie par les Belges quand un Italien envoyait un ouvrier, en fait. Hein. Puis ses camarades, donc à son père, mangent des tartines et ça passera mieux avec quelques quartiers d'orange. Voilà. Aujourd'hui, Savitskaya, il vit en Italie. Il dit « Je suis jardinier, bûcheron, cultivateur. » Enfin, il travaille de ses mains. Il dit que ça pousse bien en Italie, qu'il y a des pommes de terre, tout ça. À un moment donné, Roberto lui lit un passage de « Les morts sentent bon ». Et puis je regarde Eugène qui semble redécouvrir son texte. Il dit « Est-ce que tu oublies ce que tu écris ?» Il a rigolé. Et puis après, il a dit « Oui, il faut oublier. Il faut oublier, c'est nécessaire. » Et puis on a parlé d'inspiration, l'enfance comme ça est effectivement une sorte de filon, comme il l'appelle, quasiment inépuisable en fait, quelque chose qu'il a gardé frais, comme il dit. Il dit qu'il travaillait dans l'urgence, il écrivait parfois des textes la veille de les lire, donc ça c'était dans les années 70, 70. Il y avait beaucoup d'occasions de lire la poésie. Et puis qu'il y a eu moins de succès, c'était des vagues comme ça. Et que maintenant, il y a un retour à ça, à la poésie, et puis à la performance, à la poésie performée, à la poésie lue. Donc on s'est mis à parler d'art visuel, enfin d'art en règle générale, des inspirations, des ponts qu'on pouvait faire d'une pratique à une autre. Et plutôt que de stimulation, il a employé le terme de réaction. Il parle comme un végétal, comme un animal. Et pour moi, ça a été très beau parce que c'est le moment où j'ai eu en face de moi l'espèce de démonstration de la critique de l'anthropocentrisme, en fait. Mais d'une manière presque involontaire, sans militer. À un moment donné, il a eu un lapsus, on parlait des loups, ben, je crois que c'est suite à la discussion sur les cerfs, on parlait des loups, et puis il a dit les gens, et puis il s'est repris, il a dit les êtres. Et voilà.
Sinon, j'ai vu des lamas, je crois, sur la route. J'ai vu plein de scarabées écrasés. Et j'ai découvert qu'en fait, la lampe frontale, ça permet de voir bien les champignons pendant la nuit. Et de voir très bien les champignons, en fait. Je me suis fait doubler par des cyclistes. Ça m'a mis un peu la rage, mais ils étaient pas chargés, de toute façon. Et je suis passé par une zone de chasse et ils étaient tous là, les chasseurs. Et tout de suite après, j'ai vu un sanglier accroché. Ils étaient en train de les peser dans un magasin, dans un village. Et tout se confond, je ne sais plus, je sais plus par où je suis passé.
Et 1, 2, 3, 1.
Allez, travaillez dans tout le pied, les orteils aussi. 5, 6, pas trop vite. 7, contrôlé, voilà. 8, contrôlé. 9 et 10, on change de sens. Et 1 et 2.
Là, t'as combien de grammes ?
90.
Ah, parfait. Bien.
Avec ça ?
Je crois que ça va, ça ira. J'avais 5 déjà.
Merci.
Et tu dis, voilà.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, tu vois ton truc, t'es déjà à 60, là, fais attention. Essaye, voilà. La rouge qui est là, c'est un peu moins de ce côté. Ça, c'était bien, essaye de ne pas dépasser, voilà. Et de l'autre côté, peut-être lâche un peu, voilà. Ok ? Mets-toi plutôt un peu, voilà. Ça, c'est ton max, hein. Ça va ? Bon, si de temps en temps, tu fais une fois 1,60, mais ne t'avise pas de faire des 100, machin. Tu vois, essaye de rester 40-50.
Oui, je fais une petite mise à jour. J'étais hyper enthousiaste. Il me reste encore 110 bornes. C'est ça la déception. Je croyais que j'avais vachement plus avancé que ça. J'étais lancé. C'est quand même long de faire 150 km en une fois. Et puis je me suis planté à un moment donné, je voulais suivre un petit schéma pour couper une colline. Du coup je me suis retrouvé dans un truc à marcher dans les ronces. Et puis en fait il y avait le fossé, je ne pouvais pas traverser. Mais j'ai vu une biche qui s'échappait d'un chasseur sur la crête de la colline, qui se découpait comme une silhouette dans le soleil. Et elle faisait des gros bonds. Et c'était très très beau. Et du coup, ça, je me suis dit que c'était pas grave, que j'ai perdu une demi-heure de temps. Parce que le spectacle, ça valait la peine.
Chers visiteurs, chères visiteuses, vous avez acheté des billets pour Rétrospective le jeudi 7, 11 et ou pour Conférence sur Rien 1949, le vendredi 8, 11 au Kai Theater, tous deux de Jérôme Bell. Pour des raisons écologiques, la compagnie de Jérôme Bell n'utilise plus l'avion pour ses déplacements. Ici, vous trouverez un interview dans The New York Times sur ses croyances écologiques et comment ses convictions influencent son travail. Dans cette perspective, nous n'imprimons pas les programmes du soir, mais les partageons sous forme numérique. Au plaisir de vous accueillir, l'équipe du Kai Theater. Voilà, je sors du spectacle rétrospectif de Jérôme Bell. Alors, il s'agissait en fait d'une succession de ces spectacles filmés. C'était vraiment drôle parce qu'il y avait les différents spectacles qui étaient donc transmis. Et donc il y avait les rires des spectateurs à l'époque qui étaient là doublés des rires des gens de la salle dont je faisais partie. Donc j'ai redécouvert avec plaisir le portrait, par exemple, de Véronique Doineau, danseuse de l'Opéra de Paris. Et là, j'ai sélectionné un moment où elle, chantonne et danse le personnage de Gisèle qu'elle aurait rêvé danser pendant sa carrière.
À rejoindre par un cycliste autochtone de 14 ans, tout pimpant, qui venait de fermer la porte de sa maison sur la route. Et il me rejoint et me serre la main et il me dit qu'il allait à Montreuil. Et du coup, je dis Ah, tu vas à Montreuil à Paris? Il me fait Non, Montreuil au Lyon. Et en fait, c'était juste. À peine 50 mètres plus loin, il y avait le virage et nous sommes séparés. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il m'amène jusqu'à Paris. Le vent, c'est très très violent.
Voilà, là je suis dans un parc, je suis déjà à Paris. Donc j'attends ton arrivée, tu dois plus être très très loin. J'espère que tu n'auras pas beaucoup de trafic. Parce que là je sens que. Enfin j'entends le bruit des voitures qui s'aggravent. Voilà, je regarde les enfants jouer et je lis un bouquin sur l'art conceptuel pour discuter, évoquer un peu quelques trucs demain avec Jérôme Bell quand on va aller le. Rencontrer chez lui. Bonne route, à tout à l'heure.
Ligène, je suis dans le trafic à Paris, j'arrive bientôt. C'est vraiment pas le bon moment pour entrer en ville. Je pensais pas qu'un dimanche soir il y aurait eu autant de monde. Ah, je passe à côté de Radio France.
Jérôme nous accueille dans sa cuisine. Mur et sol orange vif, petite table qui fait office de bureau. On prend le thé. On parle de Marcel Duchamp et Richard Hamilton. Il y a un bouquin de Beckett qui traîne sur la table, et Beckett jusque dans la cuisine, ça n'est jamais vraiment un hasard.
Ah, on est passé là, ça y est, il est là.
C'est ça, c'est là toute la question. Non, c'est... Ouais. Après, on a parlé de Duchamp, on a parlé des Pina, on a parlé des...
Du bouquin, donc, de Richard Hamilton. Oui.
Et on a parlé des... Pina, ça, il a parlé de Picasso, vite fait, mais pas beaucoup, heureusement.
Ouais.
Chaque spectacle pourrait être une seule idée. Il n'y a pas de décor, parfois même pas de musique. Une fois même, il n'y avait pas d'acteur. Le vide, presque.
Il y a un ou deux trucs qui sont...
Il y a eu un truc avec l'identification.
Ouais. L'histoire du visage, comme ça, qui était une chose extrêmement intéressante.
Il a parlé du spectacle sans acteur, le théâtre.
Ouais.
Il a parlé de...
Ah cool, on peut se remettre de l'eau pétillante.
La question, j'ai été armé autant que tu veux.
Jérôme ne fait pas dans l'exotique. Il semble, comme nous, attacher beaucoup plus d'attention à l'ordinaire. Il fait plutôt dans l'endotique, il travaille avec ce qu'il a sous la main. Pourquoi ne pas recycler les décors, avait-il un jour pensé avec ses amis.
Ah super, t'as été félicité par les toilettes publiques, t'as utilisé le lavage économique. J'ai retrouvé
tu
ce que j'ai retrouvé
un
ce que
peu
je voulais dire.
D'abord.
Ouais. Il a pu se libérer d'une trop forte pression formelle en fait.
Sa dernière intervention sur scène est une lecture de Conférence sur rien, un texte écrit par le compositeur John Cage en 1949 et qui commence par « Je n'ai rien à dire et je le dis ».
À un moment donné, il s'était rendu compte de l'absurdité de la chose. Il avait même demandé à son danseur de ne pas cligner de l'œil, quoi. Un truc qui est effectivement une aberration. Et qu'il a ensuite réussi à s'en libérer dans la rencontre avec les handicapés mentaux. Et où là, il a assisté à une chose, d'ailleurs, il disait que c'était la plus belle chose au monde qu'il avait pu voir. Et c'est qu'en fait, il y a un type qui s'est endormi, quoi. Et qu'on ne pouvait pas refaire le moment où on s'endort et on se réveille. Que c'était la chose la plus difficile à faire. Parce que...
Jérôme Bell démasque, révèle la partie cachée. Il retourne le sens des choses comme on retourne un t-shirt. Il enlève les couches. Il soulève l'écorce pour regarder la vie qu'il y a en dessous.
Et voilà, mais il y a d'un côté ce truc très maîtrisé, sa biographie qu'il connaît, quoi.
Ouais, tout à fait.
Effectivement, ce qu'il est en train de travailler sur ce spectacle-là, sur sa propre histoire aussi. Mais aussi parce que quand on parlait de séries et de l'importance des séries, lui, en fait, a fait toute une série sur de portraits. Isadora Duncan, Véronique Guado, Cédric Andrieux. Donc, en fait, il connaît cet exercice qui finit par s'appliquer à lui-même, en fait.
Je m'appelle Véronique Doineau. Je suis mariée et j'ai deux enfants de 6 et 12 ans. J'ai 42 ans et je suis à la retraite dans 8 jours. Ce soir, c'est donc mon dernier spectacle à l'Opéra de Paris.
La compagnie de Jérôme Bell ne prend plus l'avion. À la période où nous le rencontrons, le spectacle Isadora Duncan est joué à Paris, mais aussi à New York, et tout le spectacle aura été construit, répété et travaillé en visioconférence. Son engagement écologique pourrait refléter cette attention obstinée envers l'inframince, l'interstitiel. C'est peut-être là qu'il y a toute une œuvre à faire.
Je crois que j'ai vraiment pas de chance avec la météo en ce voyage. Il y a encore un vent de malade et je crois que je vais me choper l'orage. J'en peux plus, quoi.
Après 400 mètres, restez sur la voie de droite.
Ah, un beau boulevard des platanes à Neuilly-sur-Seine.
Qu'est-ce qu'il aimait les platanes de Napoléon?
Il aurait pu planter des châtaigniers. Moi, on aurait bouffé, quoi. Voilà, police. Je sais pas ce qui se passe. Allez, pas content. Je recule. Je sais qu'il doit passer, je sais pas quoi là. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Ah voilà, c'est ça.
Ouais.
je suis en train d'écouter un long mix de Jérémy Deller et Rory Crixton qu'ils ont réalisé lors d'un festival en juin dernier, Spiritland. Je connaissais pas cet aspect de sa pratique, même si je sais qu'il a travaillé avec beaucoup de musiciens, notamment le projet dans lequel il avait demandé à une fanfare de jouer un répertoire de musique acid house. D'ailleurs, j'ai lu ces jours-ci que qu'il considérait ce projet comme un petit peu charnière, qu'il s'était rendu compte dans les interactions avec le public qu'il avait plus forcément besoin de produire des objets, qu'il pouvait réaliser ce type d'événement, travailler avec des gens, se faire plaisir, et qui se libérait d'une pratique d'artiste au sens traditionnel. Il dit qu'il a été libéré par une fanfare. Ça rejoint des choses que Jérôme Bell a pu nous dire. Tu dois être dans le ferry, probablement, en mer.
Je suis à Eastbourne, qui est à l'est de New Haven, où je suis arrivé en ferry ce matin, après un voyage de 180 km sur la pluie depuis Paris jusqu'à Dieppe. Et après, j'ai passé une nuit blanche en attendant le ferry qui partait à 5h. J'ai fait sécher mes vêtements qui étaient inévitablement trempés dans les toilettes du terminal du ferry. Et je remarque que quand même en Angleterre, j'ai du mal à rentrer avec les vélos, à laisser les vélos quand je fais les courses dedans. Je leur demande gentiment, mais ils refusent comme en France. Pas partout évidemment, mais c'est un peu embêtant. J'ai un meilleur souvenir de ça. La route entre New Haven et Eastbourne est magnifique. Et je suis passé dans les South Down National Park, qui est très beau. C'est une sorte de parc marais, avec des collines assez douces, des pentes assez douces, vertes. Et pas mal de variétés d'arbres. Je crois avoir remarqué du sycomore, mais je dois encore vérifier. J'ai plus de connexion internet. Et il a plu à nouveau, ça allait. Et là, il y a du soleil. Ici, le temps, il est très changeant. Ce qui m'arrange. Je crois qu'il est en train de chanter un truc en italien. Je crois qu'il est en train de chanter au soleil mio. En fait, c'est l'air de soleil mio, mais avec un autre texte.
fait, ça, c'est un morceau que Jérémy Deller a proposé d'enregistrer à Chuck, un musicien, chanteur de rue. Jérémy Deller est assez fasciné par les reprises musicales, trouvant que ça les enrichit et que ça nous surprend. Donc là, tu auras reconnu Folsom Prison Blues de Johnny Cash.
Et là d'où je te parle, ils ont planté du frêne qui est très beau. Il y a des petites feuilles lancéolées. Et je crois qu'il y a de l'érable aussi, ouais, qui est multicolore déjà. Il y avait encore les murs. Peut-être qu'ils sont un peu décalés ici. Mais c'est assez remarquable. J'espère que tu auras la chance de le voir un jour. C'est assez remarquable la variété d'arbres qu'ils ont.
Voilà, je suis en train de faire la kiné à la maison. Je pédale sans me déplacer. Je me mets la musique du spectacle de Jérôme Bell. C'est fou comme mes muscles peuvent fondre vite, mais c'est fou comme ils se regonflent vite. Ils reprennent rapidement de la vigueur. On sent que il y a la flemme du départ et puis que rapidement la stimulation donne des joies aux muscles, tu sais. Oui, tu sais, parce que t'es toi-même en train de pédaler. Il y a toujours les premiers kilomètres qui sont un peu difficiles. Moi, j'ai ce rituel de... Peut-être ça peut t'aider. De réveiller le corps par en m'adressant à chaque partie celles qui sont les plus convoquées dans la pratique du vélo. Donc je commence à rouler comme ça, en moulinant pas mal pour bien m'échauffer. Et du coup, ben je commence par les pieds. Bonjour le pied droit. Bonjour les orteils. Bonjour le pied gauche.
Ça par exemple c'est sheep plant. Ça c'est hop plant. Chingu.
Bonjour la main gauche.
Timber stomp.
Bonjour la paume de la main gauche.
Hammond's Farm. Woodbury Cottage. The Cockies, Newlands, Meremies, ça c'est Slit House. Je suis dans la région du Sussex et ici chaque maison a son nom.
Bonjour, voilà mon vélo est dans sa housse de protection. Mon pied aussi est dans sa housse de protection. Et nous dirigeons à grande vitesse vers Londres, où je referai mes premiers coups de pédale. Ce qui est super parce que c'est une ville que j'adore rouler. Voilà. À tout à l'heure.
Je suis dans la salle d'arcade. C'est le bruit de la machine à sous là. Une espèce de fontaine Ça, je crois que c'est les jeux, les hockey sur table. Ça, c'est notre machine à sous, la même. Ça s'appelle Super Sonic. Et ça, c'est Zolta. Ciao, je suis en train de faire les courses et j'arrive dans une heure à Londres.
It's up in the air. Will we leave the EU before Christmas or be back at the ballot box? The Prime Minister's attempt to walk his Brexit deal through the Commons stalled last night. So delays on the cards.
Voilà, je suis bien arrivée à Londres. Je t'attends dans un café en regardant les infos, les actualités. Et ça parle du Brexit. Voilà. Et le quartier, bah, c'est pas trop loin de là où nous a donné rendez-vous Jérémy Dallaire. Donc c'est parfait. À tout à l'heure.
He threw Northern Ireland under a bus. He ripped up protections for workers' rights and environmental standards. Does the Prime Minister accept that Parliament should have the necessary time to improve on this worse than terrible treaty?
Yes, there is a sound for when he's scared.
Dans les compagnies, c'est un coq, je l'ai sauvé. Elle a eu à un mois, il était encore en poussin, je crois. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas de coq dans l'industrie alimentaire. Il n'y a pas besoin de coq, il faut des poules pour faire les œufs. Ils sont bien morts, mais après, les poussins, ils les envoient à l'abattage. C'est-à-dire au broyage, dans le mouillon, peu importe.
Oh, you sleepy boy.
Il a poussé une traite parfaitement droite. C'est un aigle. C'est gros comme un aigle. Et apparemment, il n'avait pas fini de grandir. Il n'avait que 9 mois. Donc, j'ose pas imaginer ce que ça va donner comme truc. C'est hallucinant. Et donc, elle a détecté 10 sons différents de sa part. Il a mis 10 sons différents. Et il fait un son de bouilloire électrique. Et ça, c'est merveilleux, je vais te le faire entendre. C'est complètement artificiel. Peut-être limite. Je ne sais pas. Apparemment, elle a pas avoir compris que quand il fait ce son-là, c'est parce qu'il n'est pas content. Donc, surtout, il a une attitude de très infantile. C'est-à-dire qu'il veut que l'attention elle soit sur lui.
Really seems
là, son coq.
Like learned, yeah. It's yeah. Not like, yeah. I never heard the roosters doing this kind of sounds. Oh, come on.
What do you want? What do you want?
Monsieur Dallaire nous a donné rendez-vous au pub Salmon & Ball, bien repérable par sa façade couleur vert pelouse, éclatante dans la nuit trop claire d'une métropole. Je remarque l'écriteau « Kids are not allowed ». La couverture de son catalogue raisonné est une image d'une banderole de procession, celle où il est écrit « Join people ». comme une douce injonction à être heureux malgré tout. En poussant la porte, nous nous sentons comme des enfants à l'idée de rencontrer Jérémy.
Santé. Santé.
Bonne carte d'air.
Faire de l'art, c'est sain, nous dira-t-il.
C'est marrant parce que moi, je vais le voir arriver par le miroir. Toujours plus...
T'as un step...
C'est-à-dire qu'il y a déjà une forme de mise en abîme, tu vois.
Tu peux regarder toute la soirée à travers le miroir si tu t'en...
Si je suis trop timide pour le regarder dans les yeux.
Dans les Salmon & Bull à Londres, il y avait un jukebox. Et dans les jukebox, Jérémy Deller. Comme une chauve-souris, il était apparu. Pendant qu'on lisait un éloge de la bière ou de l'alcool, écrit comme un poème ou par un poète, est encadré au-dessus de notre table. Jérémy, la chauve-souris, commande une Guinness.
Jérémy Deller ne parvenait pas à se figurer que nous étions venus à Londres dans l'unique but de le rencontrer. Pourtant familier du concept de fan, notre living tribute ébranlait sa modestie.
Jérémy se dirigea vers la machine et commença à feuilleter le catalogue. Son enthousiasme était tellement grand que malgré l'absolu manque de précision de l'interface tactile, aucune frustration s'originait de la rencontre. Il était complètement absorbé par les jaquettes colorées et les titres évocateurs.
En Belgique, les bières légères, ils les appellent les bières de soif.
Je me demande toujours, en fait, qui est-ce qui boit le plus quand tu voyages.
Jérémy avait idéalement traversé la vitre pour se prendre un bain chaud dans les paradis de la pop musique.
La surface des vitres était remplie de buée, un voile de condensation. Comme un brouillard dans lequel on aime se perdre en vélo. Ce rideau fragile, ne tenant que grâce à la mise en commun de toutes nos respirations, isolait ces scènes d'intérieur non autorisées aux enfants, des scènes du trottoir tout autant imprévisibles. Il constituait une frontière de vitesse entre la rue et le bar.
Qu'est-ce qui t'a dit ? Ou là, tu t'es dit faire la route pour entendre ça, quoi. Ok.
Quelque part, en fait, ce qui me rassure, ce qui m'apprend de chez lui, c'est ce bon sens qu'il a face à éventuellement les grandes questions, tu vois.
Une forme de sagesse, en fait.
Une forme de simplicité, de pragmatisme, extrêmement limpide.
55, en fait. Il y a 55 ans. Pourtant, il a 55 ans. Ok. Et donc, il n'a pas beaucoup de cheveux blancs quand même, non? Ça concerne là. Hein.
Ah, ça concerne très bien.
Il y a un truc qu'il a dit que je trouvais très bien, c'est I don't distinguish.
Entre.
Il a parlé de forme d'art comme on parle quasiment d'individu en disant je ne fais pas de distinction.
Ça c'est marrant les l'occurrence du concept d'imitation dans ma réflexion dans les derniers deux jours en fait. Peut-être un peu les coqs, peut-être un peu les oiseaux en général. Et combien de comportements qu'en fait on fait, on met en action. Juste en imitant quelqu'un d'autre en fait. À propos d'oiseaux, non?
Mais là, c'était vraiment une drôle de sensation, une sorte de tunnel végétal.
Ouais, c'est trop bien.
Mais on pouvait à peine passer, quoi. Enfin, je veux dire, on était obligé vraiment de se courber encore plus.
Waouh, regarde ces champignons. Vous avez vu ou pas? À gauche.
Ah, énorme. Vous avez vu déjà cela? En fait, le GR12, que je te dis qu'il est tellement beau,
oui.
Il est vraiment beau, celui qui va vers le bois des Halles, il y a des passages comme ça. J'aime bien parce que du coup ça filtre, je ne peux pas y aller en VTT. Gauche. Tu vois ça, un pavé?
Ouais.
Il y a 5 heures. Il nous reste 12 bornes.
En fait, c'est le seul bar de la ville.
C'est possible.
Bon, donc on trinque à la reprise, de la vraie reprise du vélo. Vous avez oublié l'énergie que ça donnait. Et ce sentiment pour le fin de journée, avec les muscles pour qu'on travaille, c'est trop beau. Ça n'a pas d'équivalent.
Je sais pas combien de degrés c'est à la fosse.
Une famille dépensée. De Géraldine Pi et Roberto Verde.
Merci à Jérôme Bell, Jérémy Deller, Eugène Savitskaya.
Avec les soutiens des Avatar Québec et Anita Molinero.
Attaché d'émission Inès Duperron.
Coordination Aurélie Charon.
Mixage Régis Nicolas.
Réalisation Gilles Mardi-Rossian.
Géraldine Pi et Roberto Verde pour l'expérience
France Culture.
Dans le fil de podcast de l'expérience, depuis cette semaine, vous pouvez aller écouter Décidération par l'artiste Smith, réalisé par Angélique Thibault. Une tentative de se reconnecter au cosmos et aux étoiles et de consoler cette coupure avec le ciel. La semaine prochaine, dimanche à 22h, ce sera L'autre famille par Léa Capuano qui fait parler les enfants placés en famille d'accueil et fait place à leur récit à eux, alternatif d'une famille possible. Vous écoutez France Culture, il sera bientôt 23h et vous retrouvez Mathias Sénard pour la salle des machines.